Radio Capi.
Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Capi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre journal. Voici le principal titre de l'actualité du jour. Coup d'envoi de la 6e édition du Katanga Business Meeting à Kolwezi. Le corridor de Lobito, mis en avant lors de cette rencontre, est perçu comme une opportunité essentielle pour le développement de la RDC, selon les participants, car facilitant les échanges commerciaux et renforçant l'intégration régionale. À Berlin, Thérèse Kayikwamba, ministre d'État en charge des affaires étrangères, adresse un appel urgent aux membres du Conseil de sécurité, y compris le Rwanda, pour qu'ils respectent le droit humanitaire international en RDC. Il souligne la détermination de la RDC à poursuivre le pourparler de la paix et exhorte le Rwanda et ses alliés à tenir leur engagement. Kisangani, Congo Peace Network, en première ligne pour lutter contre les discours de haine et la désinformation. Découvrez dans ce journal comment il encourage la paix et la cohésion sociale avec notre invité héritier Mumbere, chargé des programmes à Congo Peace Network. Restez avec nous pour en savoir plus. Commençons tout de suite avec ce coup d'envoi hier mercredi à Kolwezi, dans le Lualaba, de la 6e édition du Katanga Business Meeting par la première ministre Judith Suminwa, sous le thème « Bâtir notre futur », focus sur les objectifs prioritaires. Ces salons économiques réunis des opérateurs de divers secteurs, y compris les mines ainsi que des partenaires et la société civile. Lors de cette première journée, les intervenants ont souligné que le corridor de Lobito représente une opportunité de développement pour la RDC au-delà d'un simple couloir d'exportation des minerais. Jean Gandou nous fait le point.
Pour Costa Kosaris, initiateur du Katanga Business Meeting, le corridor de Lobito ne doit pas être une simple voie logistique pour le transport des minerais, mais une occasion pour le développement économique de la RDC. D'après lui, ce couloir peut et doit être l'épine dorsale de l'industrialisation de notre pays. Le représentant de la FEC a plaidé pour sa part pour la souveraineté économique du pays. Eric Monga a indiqué que la RDC, au regard de ses potentialités de transition énergétique, écologique et industrielle, offre une opportunité de se positionner comme un acteur central. Pour Madame Roxane de Berling, ambassadrice de la Belgique en RDC, la RDC peut profiter également de son potentiel agricole largement sous-exploité à l'heure actuelle pour lutter contre la sous-alimentation qui frappe plusieurs pays. La gouverneure du Lualaba est revenue sur l'importance du corridor qui est aussi un catalyseur de transformation locale par les effets induits, notamment la création des zones économiques spéciales, la création des gares industrielles et les centres logistiques et des chaînes de manufacturation. Fifi Masuka plaide pour la gouvernance inclusive et souveraine de ce corridor pour qu'il serve en toute priorité aux intérêts de développement de la RDC et non un simple couloir d'exportation de minerais. Et pour la première ministre, le corridor de Lobito est un symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration régionale pour la transformation locale de minerais en leur conférant une valeur ajoutée.
À Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, a qualifié le transbordement des marchandises aux frontières lors de l'importation de véritables guerres menées par le pays voisin qui affaiblit progressivement l'économie congolaise. Il a fait ses déclarations en réponse à une question orale avec débat posé par les députés nationaux Tade Kambere dans le cadre du contrôle parlementaire. Lors du débat à l'Assemblée nationale, les députés ont souligné que le droit de douane élevé en RDC comparé à ceux de pays limitrophes pénalise les opérateurs économiques congolais et favorise la fraude douanière. Michel Kifinangoy.
Dans sa question orale avec débat, le député national Tade Katembo fustige l'interdiction par le ministre du Commerce extérieur du transbordement des marchandises aux frontières lors de l'importation. Tade Katembo.
Comment justifiez-vous l'interdiction du transbordement de marchandises aux frontières au lieu de la lutte contre le fractionnement tel que retenu dans le programme d'action du gouvernement?
En réponse à cette question orale avec débat, le ministre du Commerce extérieur justifie la mesure de transbordement des marchandises aux frontières par le souci de faire face à la guerre économique imposée à la RDC. Julien Paluku.
Les pratiques du transbordement non encadrées par la douane
et surtout du fractionnement des marchandises dans les pays de transit tue à petit feu l'économie congolaise. Cela empêche aux générations futures de tirer un jour profit des politiques publiques.
S'en est suivi un débat général au cours duquel les élus du peuple ont évoqué notamment la problématique de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, les embouteillages de gros camions sur la route, ainsi que la multiplicité des taxes parafiscales qui favorisent la fraude douanière et la corruption.
Retour au Lualaba, la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles dénonce fermement les violences sur le site minier de Chabara, près du village des Kawama, à environ 40 km de Kolwezi. Dans un communiqué de presse mardi dernier, elle rapporte que des créateurs artisanaux se sont révoltés, causant des actes de vandalisme. On déplore des blessés et de nombreux dégâts matériels. Récit des faits avec Paul Munanga.
Ces organisations de la société civile soulignent que le 12 mai dernier, des exploitants artisanaux qui ont initié une pétition pour revendiquer leurs droits ont vandalisé le site minier de la coopérative minière artisanale Komakat. Pour le moment, les raisons exactes de leur contestation ne sont pas encore connues. Les organisations notent qu'un dispensaire a été systématiquement vandalisé, des vitres et pare-brise de beaucoup de camions de transport des produits miniers cassés, des bureaux de la coopérative minière Komakat saccagés, des sommes d'argent, des appareils téléphoniques et d'autres biens de valeur emportés. Le communiqué signale aussi que le personnel médical et autres agents trouvés sur les lieux de travail ont été copieusement tabassés. Les organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles dans la province du Lualaba condamnent ces actes de violence et rappellent qu'un site minier artisanal n'est pas un champ de bataille ou un terrain pour se régler des comptes. C'est en revanche un espace de cohésion et d'entraide. Signalons que les services de sécurité ont mis la main sur une trentaine de manifestants et les ont présentés au ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Comme indiqué dans les titres, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a exhorté les membres du Conseil de sécurité, y compris le Rwanda, à respecter le droit humanitaire international en RDC. Elle a exprimé cette demande lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle, dont le contenu a été relayé ce jeudi par Radio Okapi. Thérèse Kayikwamba participe actuellement à la conférence internationale sur le maintien de la paix à Berlin en Allemagne. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La ministre congolaise des Affaires étrangères estime que les pays contributeurs aux troupes de l'ONU sont tenus de respecter les droits internationaux humanitaires. Thérèse Kayikwamba pointe du doigt le Rwanda qu'elle accuse de violer l'intégrité territoriale de la RDC.
Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix, à savoir le Rwanda. En même temps, ce pays viole notre intégrité territoriale et ce pays aussi a été associé à des violences contre des soldats de la paix.
La chef de la diplomatie congolaise rappelle que Kinshasa est prête à poursuivre les pourparlers de paix à tant que Kigali et ses supplétifs honorent leurs engagements.
Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo.
Elle souligne également que la situation des droits de l'homme reste préoccupante dans la partie orientale du pays où l'armée rwandaise continue de commettre diverses exactions contre la population civile. Thérèse Kayikwamba a par ailleurs profité de sa présence à Berlin pour battre campagne en faveur de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU pour les mandats 2026-2027.
L'actualité inclut également des violents affrontements depuis tôt ce jeudi entre le rebelle de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo dans plusieurs villages des groupements Bouabou et Banyongu situés dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon des sources civiles locales, après une attaque des rebelles contre le Wazalendo hier mercredi, ces derniers ont lancé une contre-offensive ce jeudi. Le point avec Ronelly Timbonera.
Depuis 4 heures de ce jeudi matin, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus notamment dans le des entités coutumières. C'est notamment autour des collines Showa, en groupement Banyungu, ainsi qu'en Gwaki, Luansi et dans le groupement voisin de Bouabo. Selon de sources de la notabilité locale, les rebelles du M23, venus du chef-lieu du territoire de Massissi, situé à 12 km plus au nord, ont attaqué et délogé hier mercredi les combattants Wazalendo de ces collines. C'est jeudi, les VDP reviennent à la charge pour tenter de reprendre les contrôles de ces villages. De fortes détonations d'armes lourdes et légères qui accompagnent ces combats paniquent les habitants, forçant quelques-uns à fuir les milliers et ses dirigeants vers les localités voisines plus sûres. Nos sources ne fournissent aucun bilan de ces accrochages qui, selon elles, se poursuivaient encore jusqu'à la mi-journée de ces jeudi.
Restons en Nord Kivu où la mairie de Goma, sous l'administration de la rébellion du M23, a récemment publié une liste de taux de la taxe d'assainissement que les habitants devront payer selon leurs activités. La première liste publiée le 8 mai détaille les taxes pour les activités dont la commune de Karisimbi avec le montant variant entre 5 000 et 600 000 francs congolais par mois. Les détails avec Élise Kavira.
66 activités sont astreintes à la taxe d'assainissement dans la commune de Karisimbi. À titre illustratif, les banques, les hôtels 5 étoiles et les entreprises publiques devraient verser mensuellement le montant des 600 000 francs congolais à titre de taxe d'assainissement. Vient ensuite la catégorie des hôpitaux, dispensaires, centres de santé et établissements d'enseignement supérieur et universitaire pour une taxe de 300 000 francs congolais par mois. D'autres, comme la vente des cartes prépayées, les kiosques, les alimentations et salons de coiffure de petite taille, devront payer un montant de 5 000 francs congolais. Quelques opérateurs économiques de Goma affirment ne rien comprendre. Ils pensent qu'ils sont là face à une nomenclature isolée. Ce que l'on sait, c'est que la ville, en tant qu'entité territoriale décentralisée, peut générer au terme de l'ordonnance loi numéro 18/004/2018, la taxe d'assainissement et d'évacuation des immondices et ordures ménagères. Cette taxe a pour cible les ménages. Pour les opérateurs économiques, les taux fixés par l'administration rebelle s'avèrent exorbitants et difficiles à payer par une population asphyxiée par la crise économique et financière qui perdure depuis la prise de contrôle de la ville de Goma par l'AFC M23.
Quittons le Nord Kivu pour la province de la Tchopo. Le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao, annonce l'implantation prochaine de ses antennes dans les provinces du Bazouélé, du Haut-Ouélé et de l'Ituri. Dans un communiqué de presse d'hier mercredi, le Frivao précise que ces déploiements permettra aux victimes de cette région de Grande Orientale de faire valoir leurs droits. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'ouverture des antennes du Frivao dans ces provinces de la Grande Orientale s'inscrit dans la stratégie visant à rapprocher le dispositif des populations concernées, à améliorer la gestion des prochaines phases d'indemnisation et à garantir une prise en charge de proximité plus équilibrée et plus efficace, souligne les communiqués. Ce document révèle également que depuis sa prise de fonction en août 2024, le comité Chansar Bodukola a déjà versé des indemnisations à 14 309 victimes dans le cadre de la première phase. À son arrivée, seules 101 personnes certifiées avaient bénéficié de ce soutien. Cette avancée, indique-t-il, témoigne de la volonté du gouvernement congolais à traduire en actes concrets la décision de la Cour internationale de justice en veillant à l'équité, à la rigueur et à la transparence. Dans la continuité de cette dynamique, le Frivao annonce également le traitement des dossiers des victimes omises, des cas litigieux, ainsi que l'identification des victimes absentes lors des phases précédentes. Jacques Mkonkoulé, Kisangani, Radio Okapi.
Par rapport aux indemnisations collectives, le Frivao annonce l'arrivée imminente du ministre de la Justice et garde des Sceaux, autorité des tutelles, pour lancer les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. La contribution de l'élite universitaire à la construction de l'esprit patriotique pour un Congo émergent, fort et respecté. Tel a été le thème central d'une conférence marquante organisée hier mercredi à l'Université chrétienne bilingue du Congo UCBC à Beni, chef-lieu de la province, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, initiée par le secrétaire général à la recherche et le comité scientifique de l'ICBC. Cette conférence visait à encourager les étudiants à devenir des moteurs de la transformation sociale à travers des échanges enrichissants. Innocent Bouraouzima, secrétaire général à la recherche de l'ICBC, s'est exprimé au micro de Marc Marofimbo.
Il s'est constaté que par manque d'engagement patriotique, des visions révolutionnaires et des leaderships transformationnels assumés, les élites universitaires congolaises n'ont pas réellement joué le rôle qui est celui d'influenceur. Et ces constats révèlent que dans la vie pratique quotidienne de la société congolaise, la classe des élites qui est censée montrer l'exemple, orienter la masse, encadrer la jeunesse, cette couche-là qu'on appellerait élite, excelle dans la promotion plutôt des antivaleurs dans la gestion des affaires publiques, même dans des petites associations, des antivaleurs, même dans les églises. Et ceci est souvent caractérisé par les détournements des deniers publics, la corruption, le trafic d'influence, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, l'injustice, la démagogie, et vous pouvez augmenter d'autres antivaleurs.
Actualité internationale.
Au Mali, les autorités de transition précisent les prochaines étapes du processus des réformes après l'abrogation de la charte des partis politiques le lundi 12 mai, suivie de la dissolution de tous les partis et organisations politiques le lendemain. Le ministre délégué en charge des réformes politiques s'est exprimé devant la presse malienne hier mercredi, promettant un processus inclusif. Mamani Nassiré, qui avait personnellement annoncé la dissolution des organisations politiques, a détaillé les étapes à venir. Il a annoncé l'élaboration d'une nouvelle loi pour définir les conditions de formation et d'exercice des futurs partis politiques dont le nombre sera fortement réduit. Les consultations menées le mois dernier par les autorités de transition avaient recommandé de limiter le nombre de partis à 2, 3 ou 4 grands partis contre près de 300 actuellement, avec des conditions de création plus strictes incluant une importante caution financière. La classe politique, quant à elle, se prépare à contester cette dissolution devant la justice et organise une résistance face au régime en place.
L'invité.
À Kisangani, l'ONG Congo Peace Network, basée à Goma, mène une campagne de sensibilisation contre les discours de haine et la désinformation. Mardi dernier, une centaine de personnes, incluant des membres de la société civile, des jeunes et des victimes de guerres et conflits sociaux, ont participé à cette activité organisée au centre Saint-Joseph, plateau Boyoma, dans la commune de Makiso. Pour en savoir davantage, Jacques Moukonkolé s'entretient avec Héritier Moukonkolé Mumbere, chargé des programmes à Congo Peace Network. Suivez.
Héritier Mumbere, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cet atelier?
Cet atelier rentre dans la perspective de la mission de l'organisation Congo Peace Network, qui est une structure qui travaille sur des questions de paix avec un focus sur l'engagement des jeunes dans cette question. Après toutes ces grandes années où l'Est de la République démocratique du Congo a traversé énormément de tensions, l'organisation travaille à pouvoir mobiliser et engager les jeunes sur cette question de la paix et de la cohésion sociale en République démocratique du Congo. C'est dans cette orientation-là que ce forum citoyen vient d'être organisé dans la perspective de mobiliser les forces vives de Kisangani pour faire d'eux des leviers et des moteurs de la construction de la paix.
Et c'est ça l'objectif ou les objectifs que vous poursuivez?
Tout à fait, parce que vous êtes sans ignorer que presque toutes nos provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est 30 années de guerre, de conflits, et tout cela a affecté bien évidemment le vivre ensemble. Alors l'objectif, bien évidemment, c'est de consolider encore cela et commencer à rentrer dans les moindres détails. Comment est-ce que j'arrive à savoir que tout ce que je suis en train de faire, en pensée, en parole et en action, que ça puisse servir bien évidemment de construire la paix plutôt que d'en anéantir?
Votre thème est circonscrit dans un contexte purement électoral. Pensez-vous que le moment actuel soit propice pour ce genre d'activité?
Alors, ce n'est pas seulement à très canalisé dans le contexte électoral, mais aussi post-électoral. Parce que nous avons vu tout ce qu'on a vu lors de nos périodes électorales passées. Et c'est après aussi qu'il y a comme une sorte de résultat de cela. Il y a toujours les résidus de cela en termes de l'alimentation des tensions, l'alimentation de violences communautaires. Alors, avec tout ça, nous sommes en train d'agir, mais aussi dans la perspective de prévention. Parce que bientôt, sûrement, il pourra y avoir encore d'autres élections. Alors, si jamais la population elle n'est pas bien informée sur sa responsabilité dans la lutte contre ces violences électorales, ça serait un contexte compliqué, raison pour laquelle nous travaillons aussi par-delà tout à la prévention de ces conflits électoraux. Mais on est dans le contexte où on est dans l'électoral et le post-électoral.
Quelles sont les conséquences qui découleraient de la désinformation ou de la manipulation?
Alors, si jamais on n'arrive pas à bien gérer la question de l'information. Vous le savez, partout maintenant, c'est des tensions avec la crise que le pays traverse actuellement. Tout le monde pense qu'il a le monopole de diffuser de l'information. Et à un certain moment, ça devient un facteur de manipulation de conscience, des esprits, et ça aboutit au finish à des violences, à des conflits. Et cela, on en a vu avec tous les grands conflits qu'on a connus, que ce soit ici dans la province de Kisangani, que ce soit sur la province du Nord Kivu, d'ici de Kivu, de Maniema ou même de l'Ituri. C'est cet aspect de la mauvaise manipulation de l'information, des rumeurs, ça devient un facteur qui anéantit et casse les rouages du vivre ensemble. Et ça, il faut commencer déjà à les prévenir bien avant pour qu'enfin on puisse espérer qu'on peut vivre en harmonie et en paix, passer aux questions essentielles qui sont d'ordre du développement local.
Parmi les participants, il y a les victimes de guerre que vous avez aussi ciblées, n'est-ce pas? Pourquoi avoir pensé à elles?
Alors, vous savez, avec tout ce qu'on a connu, ce sont des femmes qui ont été violées, ce sont des personnes qui vivent avec handicap parce qu'ils ont été victimes de guerres, ce sont des déplacés de guerres. Alors, personne ne peut mieux penser et parler de la question de la paix comme ces gens, parce qu'ils savent ce que ça fait. Est-ce que ça veut dire les conséquences de conflits? Alors, il devient illusoire aujourd'hui d'espérer construire la paix si on n'est pas en train aussi de penser comment faire de ces victimes des artisans réels de la paix.
Comment Congo Peace Network pense lutter contre la désinformation et les messages de haine?
Alors, ça, c'est une question de la responsabilité d'ordre personnel. D'abord, il faut se rassurer qu'on a réussi à repérer les sources nécessaires, mais aussi à ne pas avoir la souplesse de pouvoir partager l'information, toujours est-il se poser la question, est-ce vraiment ça vaut la peine? Et dès lors qu'on a des réponses positives sur la source, la provenance de l'information, on s'est déjà donné le temps de vérifier l'information, alors on peut arriver à en partager avec toujours en arrière-fond ce discernement de dire, est-ce que c'est pour construire ou c'est pour détruire? Tant que c'est pour construire, je partage. Tant que c'est pour détruire, je ne partage pas.
Héritier Mumbere, merci.
Merci beaucoup.
Héritier Mumbere, chargé de programme à Congo Peace Network, a discuté avec Jacques Moukonkole depuis la ville de Kisangani sur la campagne de sensibilisation contre le discours de haine et la désinformation lancée par son organisation. Nous arrivons à la fin de ce journal. Un grand merci à Pierre Diassinois pour la mise en onde, à Élisée Chikota pour la coordination et à Martin Sebujangwe pour la supervision. À la présentation, Gisèle Cage. Merci infiniment pour votre fidélité à Radio Okapi. À très bientôt sur la même fréquence pour une nouvelle édition.